Bourgogne, sur Paris, quelques petites pluies, on reste quand même sous les nuages.
Merci beaucoup Christine Peignard, on vous retrouve dans 10 minutes pour de nouvelles prévisions et merci à tous d'écouter France Info en ce 8 décembre, il est 5h. Et à la une ce matin, un photographe mis en examen et placé en détention en Gironde. Il prenait en photo des enfants dans les écoles à la rentrée. Il sexualisait ensuite les clichés avec l'intelligence artificielle. À la une également ce matin, Emmanuel Macron à Londres pour s'afficher uni avec les Britanniques, les Allemands et surtout les Ukrainiens. Portrait à venir dans le journal de Lando Norris, le nouveau champion de Formule 1. Et puis Bonne Mère, elle est de retour à la statue de Notre-Dame de la Garde à Marseille, célébrée hier après des mois de restauration. C'est une affaire qui a plongé Pauillac dans le Médoc, dans l'effroi. Un photographe professionnel de 64 ans qui avait pignon sur rue, qui était chargé des photos de classe dans la commune, a été arrêté. Il est accusé d'avoir transformé les clichés des enfants en contenu pédopornographique. Il les transformait avec l'aide de l'intelligence artificielle. Il est désormais mis en examen et les gendarmes doivent maintenant identifier des milliers de visages d'enfants pour retrouver les victimes. Et dans la commune, Stéphanie Scock, l'attente est très difficile. Difficile pour les parents d'élèves.
Laure tient le salon de thé de Pauillac. Son commerce se situe à quelques mètres seulement du studio du photographe. Aujourd'hui, elle se demande si ses deux enfants figurent sur les images saisies par la gendarmerie.
Nos enfants ont été pris en photo par cette personne-là. On a deux petites filles, donc on attend de voir si la gendarmerie nous contacte, tout ça. Donc oui, très très en colère par rapport à ça, c'est sûr. Voilà, moi encore à l'heure d'aujourd'hui, je fais des cauchemars de tout ça et on a du mal hein, à digérer l'info et à se dire que si nos enfants sont dedans, on ne sait pas notre action qu'on aura quand on aura la certitude de ça. Quoi.
Dans les rues de Pauillac, tout le monde, ou presque, connaît ce photographe. Cette adolescente a même travaillé pour lui.
J'ai fait un stage avec lui au collège Saint-Jean. Du coup, d'avoir travaillé avec lui et de me rendre compte que finalement, il y a eu tout ça derrière, c'est vrai que c'est assez choquant, oui. Il faisait beaucoup de photos, même pour des mariages, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que son nom était connu.
Sur la vitrine du studio, une affiche indique « fermeture définitive ». Cet habitant de Pauillac résume l'état d'esprit qui règne ici.
On pense bien sûr à toutes ces familles, à toutes ces victimes, je veux dire, parce que c'est criminel, ouais. Quand on joue comme ça à ce genre de choses, on finit par payer à un moment donné, quoi.
L'enquête s'annonce fastidieuse, mais en attendant son dénouement, le photographe dort en prison. Il a été placé en détention provisoire.
Des témoignages recueillis par Stéphanie Scock, ici Gironde, pour France Info. À la une également à 5h02, la reprise timide, mais qui est bien là pour le marché de l'immobilier ancien, qui va bien mieux. C'est ce que montre le bilan 2025 des notaires. Marina Capitaine, publié aujourd'hui, révélé en exclusivité sur France Info.
11% de ventes en plus sur un an et c'est en Gironde que ça repart le plus fort, 18% de hausse. Mais la tendance est la même partout, sauf dans la Creuse. Les prix remontent eux aussi pour les maisons et les appartements. Et sur ces derniers, si on fait un top 5 des villes les plus chères, Paris est toujours très loin devant, avec un prix médian de 9 570 € du mètre carré, suivi par Nice à 4 750 €, puis Lyon, Bordeaux et Lille, première ville en dessous de 4 000 €. À l'inverse, le mètre carré le plus abordable de France est à 1 150 € et il se trouve à Saint-Étienne. Puis on passe la barre des 2 000 au Havre, suivi par Grenoble, Orléans et Reims. Un autre signe de reprise, c'est le temps de détention d'un logement. Il se remet à diminuer après plusieurs années d'allongement. Aujourd'hui, en moyenne, on garde son bien immobilier pendant 12 ans. Et 5 mois.
Merci Marina Capitaine. Après son voyage en Chine, où il n'a pas réussi à faire plier Xi Jinping pour peser sur son allié russe, Emmanuel Macron rencontre aujourd'hui à Londres son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, mais aussi le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz, pour faire le point sur les négociations qui sont en cours dans le cadre du plan de paix proposé par les États-Unis pour l'Ukraine. Énième réunion, Nathanaël Charbonnier, qui vise, comme à chaque fois, à montrer que l'Europe et l'Ukraine tiennent et avancent ensemble.
L'Ukraine tient le coup. Alors oui, c'est un moment difficile où chaque partie joue son jeu, où chaque partie bluffe, mais à l'arrivée, ce fameux dossier ukrainien que le président Trump voulait régler en 24 heures puis 100 jours, eh bien ce dossier continue d'être sur la table malgré tout. Les Russes discutent avec les Américains et travaillent sur le plan de Washington. Les Européens se réunissent pour afficher l'union qui existe entre Britanniques, Allemands et Français. Les Américains sortent de leur tiroir leur nouvelle stratégie de sécurité nationale, document qui vise à expliquer que les États-Unis vont se désengager du vieux continent et de l'OTAN. Les Européens brandissent les fameux avoirs russes qu'ils aimeraient bien pouvoir utiliser pour soutenir l'Ukraine. Les Américains mettent la pression sur les négociations. les Européens poursuivent leur marathon en recevant une nouvelle fois le président ukrainien. Et c'est cela le programme de ce lundi, montrer que malgré les difficultés, France, Grande-Bretagne, Allemagne et Ukraine posent toujours et encore sur la même photo.
Nathanaël Charbonnier, c'est un autre plan de paix porté par Donald Trump. Il avait pourtant été signé le mois dernier après la mort de 43 personnes pendant l'été, mais la tension monte à nouveau entre la Thaïlande et le Cambodge. Un soldat thaïlandais a été tué à la frontière ces dernières heures. D'autres ont été blessés dans de nouveaux affrontements. Bangkok annonce avoir mobilisé son aviation pour mener des frappes côté cambodgien. 8 gravures du français Matisse ont été volées dans une bibliothèque de Sao Paulo, au Brésil, où une exposition était organisée. Elles ont été dérobées par des hommes armés qui ont fait irruption dans le bâtiment. C'est le nouveau roi de la Formule 1, le sacre de l'anglais de l'équipe McLaren, Lando Norris, au terme du dernier Grand Prix de la saison qui a été remporté à Abu Dhabi hier par Max Verstappen. Lando Norris s'est assuré le premier titre de sa carrière en terminant troisième de cette course. Il entre donc dans l'histoire. Fabrice Abgral, il confirme les espoirs que l'écurie avait placés en lui il y a 6 ans.
Il n'est pas le plus charismatique et pas forcément le plus rapide, mais Lando Norris est un fin stratège, comme il l'a prouvé hier malgré la pression de l'enjeu. Il n'a pas cherché à remporter la course, juste la terminer prudemment sur le podium pour s'assurer mathématiquement le titre, et ça, sans trembler ni paniquer. C'était propre et efficace, à l'image de ce pilote de 26 ans vainqueur de 7 courses cette saison.
C'est quelqu'un qui a l'air d'être structuré, dans les moments difficiles un peu détaché, le prendre avec philosophie.
L'ex-pilote de F1, Olivier Panis.
C'est un mec qui part, tu peux aller boire le café, manger. Tu sais que s'il n'y a pas de problème de stratégie ou quoi que ce soit, tu peux revenir à l'arrivée, il va être là quoi.
Lando Norris est pilote McLaren depuis 2019, mais il a dû attendre l'an passé pour remporter à Miami son premier Grand Prix, confirmant un potentiel que McLaren a su exploiter cette saison. L'ex-pilote de F1, Jean Alési.
Il a aujourd'hui chez McLaren une position tellement évidente, dans le sens où on a l'impression que tout est fait pour lui. C'est un peu le golden boy des pilotes anglais. Il est d'une famille aisée, une famille soudée. Papa et une qui l'ont accompagné toute sa carrière, ça compte beaucoup.
Le sacre de Lando Norris, c'est la fin d'une double domination, celle d'Hamilton et Verstappen, qui depuis 2017 s'étaient partagés tous les titres mondiaux.
Merci beaucoup Fabrice Abgral. Un mot de football avec encore une défaite pour Nice en Ligue 1, battu 1-0 par Angers hier soir. Les Niçois passent donc à la 12e place du classement et se rapprochent dangereusement de la zone de relégation. Autre rencontre de cette 15e journée de championnat, Lorient-Lyon, qui s'est soldée par une victoire des Lorientais. Match nul, 0 partout entre le Havre et le Paris FC. Et puis, elle veille plutôt sur l'OM et sur Marseille tout entier. La bonne mère, la statue qui trône au sommet de Notre-Dame de la Garde de la Basilique marseillaise a été inaugurée hier après une longue restauration. Elle a été fêtée en grande pompe avec un spectacle, Lisa Guinic.
Sur une musique douce, la bonne mère est d'abord plongée dans le noir. Un faisceau lumineux éclaire alors les pieds du sanctuaire et la lumière blanche remonte jusqu'à la couronne de la Vierge. Puis c'est l'Ave Maria, réinterprétée. Gaspard, 8 ans, lève la tête.
Il y a des lumières qui se croisent et qui bougent pour attirer un peu les regards.
La musique devient électronique.
C'était bien.
Qu'est-ce qui t'a le plus plu ?
Les feux d'artifice et les lumières quand elles se croisaient.
Gaspard et ses petits frères et sœurs en réclament plus, et les plus grands aussi.
On aurait aimé beaucoup plus de feux d'artifice et des lumières plus puissantes, des lampadaires éteints.
Un peu déçus, on aurait aimé avoir un peu plus de finale. Surtout vu le monde qu'il y avait, qui était venu exprès pour le spectacle.
Les Marseillais agglutinés aux fenêtres, aux balcons, dans les rues. Léa, très entourée.
Il y avait une ferveur et une proximité. Il y avait une certaine communion entre tout le monde. On était tous là pour la même raison et on était galvanisés par le fait de pouvoir voir enfin ce monument historique et emblématique.
C'est bien cette foule fédérée qui donne les frissons sous la bonne mère lumineuse.
Reportage ici Provence, signé Lisa Guinic. Christine Peña, vous êtes de retour. Alors ce matin, il faut qu'elle mette une petite laine, la bonne mère.
Hein. Ah mais oui, il fait froid, hein. On a 4-5 degrés.
On est 8 décembre, quand même.
Du côté de Marseille, alors qu'on a 15 degrés à Nantes, figurez-vous, 14 à Paris, à Rennes, à Strasbourg, à Vannes, à Alençon. Finalement, on est sous les nuages au nord, mais il fait très doux. On a cette masse d'air exceptionnellement douce en ce début de semaine. La masse d'air sera homogène d'ailleurs cet après-midi. C'est pas Marseille qu'il fera le plus chaud, on aura 16 degrés, c'est au pied des Pyrénées où on devrait peut-être afficher les 20 degrés, on aura 15 degrés même à Paris, à Dijon, à Lyon, à Montélimar avec ces pluies qui vont s'évacuer quand même par le nord et le soleil s'impose au sud.
Merci beaucoup Christine Peña, 5h09.
Le 8-30. 6h30 France Info, tous les jours sur France Info.
Bonjour, c'est Agathe Lambray.
Bonjour, c'est Paul Laroutirou.
Chaque matin, la grande interview de France Info.
Un entretien sans concession.
Il faut qu'on puisse vous poser des questions, s'il vous plaît.
Une demi-heure pour analyser et expliquer.
Pourquoi vous, vous êtes contre? Parce que vous avez peur de perdre votre siège?
Le 8h30 France Info, c'est tous les jours sur France Info.
À retrouver à la radio et à la télé sur le canal 16 de la TNT.
Une immense star dans le monde d'Elodie qui arrive. L'une des voix de Woodstock, une voix engagée, celle de Joan Baez, la chanteuse et l'invitée de France Info. Ce sera dans un petit quart d'heure. À venir aussi un reportage exceptionnel dans 3 minutes au large du Danemark sur une plateforme gazière qui doit aider l'Europe à se passer du gaz russe. Mais d'abord, à 5h10, nous sommes au château de Versailles.
France Info, 5h-6h. William de Costa.
Le château de Versailles où un carnet du peintre David pose question. Bonjour Stéphane Père.
Bonjour.
De la cellule investigation de Radio France. Vous avez enquêté, Stéphane, sur ce carnet de dessins qui appartenait au peintre qui a immortalisé le sacre de Napoléon, l'assassinat de Marat ou encore le serment du jeu de paume. Cet objet, vous avez découvert qu'il a été spolié par les nazis pendant la guerre avant d'arriver dans les collections du château de Versailles. Alors c'est embarrassant pour l'institution et pour le ministère de la Culture, car personne ne l'avait remarqué, hormis un descendant du propriétaire initial de ce carnet qui vous a alerté.
Oui, il y a quelques mois, Joseph découvre par hasard sur Internet que ce carnet fait partie des collections de Versailles. Depuis 1940, cette famille, qui n'est pas juive, croyait l'œuvre à jamais disparue après l'occupation de sa maison dans le Morvan par les nazis. La famille avait signalé le vol de cette œuvre à l'État français. Joseph comprend que le château de Versailles a acheté légalement le carnet juste après la guerre et que depuis, le musée n'a jamais vérifié son origine.
Ma grande surprise, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a tous les moyens de retrouver ces publics. Et moi-même, j'ai fait une recherche sur Internet, j'ai fait le lien. Quand on me dit, voilà, il y a 100 policiers qui vont rechercher des bijoux du Louvre, on met d'énormes moyens pour récupérer ça. Alors que pour rendre les œuvres spoliées, et il y en a beaucoup au Louvre et dans d'autres musées, je trouve que les moyens sont très très faibles. Oui, j'ai été très très choqué.
Alors ce qui est étonnant, Stéphane, c'est que la France dispose bien de moyens avec une mission de restitution des biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que répond le ministère de la Culture sur cette affaire ?
Déjà, le ministère a aussitôt reconnu, c'était évident, que le carnet de David correspond bien à l'œuvre déclarée spoliée par la famille de Joseph. Le ministère rappelle que la France et sa mission de restitution des biens spoliés ont mis l'accent ces dernières années sur l'identification des œuvres au passé douteux parmi les collections nationales. À Versailles, 3 conservateurs font ce travail de provenance. Ils n'ont pas examiné ce carnet, exposé au Louvre lors du bicentenaire de la Révolution. Notre enquête rappelle qu'avant d'être acheté par Versailles, le carnet avait été vendu aux enchères à Munich, au cœur du Reich, en pleine guerre mondiale. Cette information, Versailles en disposait, mais pendant plus de 70 ans, cela n'a déclenché aucune alerte. Ce matin, le ministère de la Culture nous annonce que des recherches ont été lancées sur le carnet de David et que les ayants droit vont être contactés.
Merci beaucoup à Stéphane Père de la cellule investigation de Radio France. On retrouve votre enquête complète sur franceinfo.fr. C'est l'une des questions les plus compliquées pour les Européens depuis le début de la guerre en Ukraine. Comment se passer du gaz russe ? L'Union prévoit d'interdire totalement les importations dans 2 ans, mais ce gaz russe, il représentait encore l'an dernier près de 20% des importations de gaz naturel en Europe. Et par exemple, en France, plus de 10 millions de foyers se chauffent au gaz. Alors l'enjeu est énorme. L'Europe cherche donc d'autres sources d'approvisionnement et elle en trouve sur son sol. Exemple, à l'est du Danemark, dans la mer du Nord, avec une plateforme offshore, qui se nomme Tyra. Elle sort de longs travaux. Elle produit désormais à plein régime. Lauriane Delanoë, vous avez pu y aller exceptionnellement avec Total Energy, la compagnie qui opère cette plateforme, qui est un petit peu loin de tout.
Pour rejoindre la plateforme, nous volons 1 heure.
Hello, welcome on board.
En hélicoptère.
Please make sure your seatbelts are fastened.
Au-dessus de la mer du Nord et d'une mer de nuages.
And welcome to Tyra East.
Là, dans le soleil levant, Tyra apparaît. C'est un gigantesque assemblage d'acier, tout jaune, long de 700 mètres. 5 blocs reliés par des ponts et appuyés sur des piliers plongés dans l'eau. Fleming Maxson est comme
the captain on the ship.
Le capitaine ici, le responsable de l'installation offshore, nous conduit à ces larges tuyaux qui sortent droit de la mer sous nos pieds.
Ce bruit, c'est le flux de gaz qui remonte dans les tuyaux. Oui, vous entendez le gaz.
You can hear the money.
Vous entendez l'argent. Après avoir extrait le gaz de sous la mer, nous le traitons, puis il est acheminé le long du pont là-bas et envoyé dans les pipelines jusqu'à la terre.
Au fil de la visite, dans ce dédale d'escalier métallique, Fleming Maxson enlève ses gants et touche certains tuyaux.
Mettez votre main là, vous sentez ? Ce tuyau est plus chaud, il n'est pas glacé comme tout le reste. C'est parce que ce puits produit en ce moment.
Nous avons foré 86 puits en tout autour de Tira. Certains ne produisent pas encore.
Précise Alan Thompson qui supervise la production.
Nous les gardons pour plus tard quand les autres déclineront et nous ajouterons de nouveaux puits. Comme ça, notre production restera à 100% pendant plus longtemps.
Alors l'hiver, quand il fait froid, les gars qui travaillent ici enlèvent leurs gants et se réchauffent comme ça.
Ce gaz chauffe aussi un peu les Français et les Européens. La production de Tira couvre 1% de la consommation européenne. Tout au bout de la plateforme, Fleming Maxson, le capitaine, nous montre le point de départ des deux gazoducs.
Voici les dernières vannes de la plateforme. Après, le pipeline repose au fond de l'eau sur plus de 200 km jusqu'aux côtes du Danemark. Et celui-là, c'est le gazoduc vers les Pays-Bas. Ce gaz rejoint le réseau européen. D'ici, le Danemark peut donc fournir du gaz à toute l'Europe. Je suis fier, nous fournissons ce gaz pour aider l'Europe et réduire les ventes des Russes. Nous pouvons maintenant nous débarrasser d'eux, pas seulement avec Tira, non, mais nous y contribuons. Et je suis danois, et pour notre économie, c'est très important d'exporter du gaz plutôt que d'en acheter.
Car ces dernières années, le Danemark a importé plus de gaz qu'il n'en produisait. Tira était à l'arrêt, la plateforme a été complètement reconstruite entre 2019 et 2024, en pleine crise du gaz russe donc. Aujourd'hui, Ole Hansen, le directeur exécutif de Total Energy, en charge de la production et de l'exploration au Danemark, met en avant la souveraineté.
Je pense qu'il vaut mieux produire son propre gaz, et ça a représenté un effort considérable. À nos yeux, Tira est la pierre angulaire du système énergétique danois. Et elle participe à la sécurité d'approvisionnement de l'Europe. En plus, elle contribue à la transition. Elle fournit du gaz pendant que le Danemark et l'Union européenne construisent leur nouveau système basé sur l'électricité.
Et la plateforme elle-même s'est électrifiée, souligne le responsable offshore, Fleming Maxson. Depuis les travaux, trois lourdes turbines à gaz produisent toute son électricité.
Maintenant, toutes nos machines sont électriques. Ça réduit l'impact environnemental. Sur la nouvelle Tira, nous avons réduit les émissions de CO2 de 30%, c'est comme si on retirait 200 000 Clio des routes chaque année.
Ce qui veut dire que Tira émet plus que 450 000 petites voitures. Or, le Danemark vise la neutralité carbone. D'ici 2050, dans 25 ans, la production sera interdite sur Tira et les autres plateformes offshore. Et comme un symbole, au retour, en hélicoptère, nous croisons des éoliennes plantées en mer du Nord.
France Info, reportage sur une plateforme offshore au large du Danemark, signé Lauriane Delanoë. C'est l'un des très rares secteurs de l'agriculture où la France est souveraine. Le lapin, on en produit assez pour couvrir notre propre consommation. Nous serons dans un élevage dans un instant.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Diane Ferschit.
Bonjour à tous.
À 5h19, c'est l'heure de l'info en une minute et à la une, les reproches de Donald Trump à l'encontre du président ukrainien.
Donald Trump qui se dit déçu, il affirme que Volodymyr Zelensky n'a pas lu la proposition de paix sur l'Ukraine dévoilée il y a 3 semaines par les États-Unis et qui fait l'objet depuis de discussions. Des reproches alors que le président ukrainien revoit aujourd'hui à Londres ses alliés européens, Emmanuel Macron, ainsi que les dirigeants britanniques et allemands pour faire le point sur les négociations. La France appelle ses ressortissants au Bénin à la plus grande prudence au lendemain d'un coup d'État avorté de militaires qui ont tenté de chasser le président du pouvoir, le président béninois, qui assure que la situation est désormais totalement sous contrôle. Deux médecins jugés à partir d'aujourd'hui au tribunal de Paris, jugés pour des essais cliniques illégaux près de Poitiers sur près de 400 patients, des patients qui souffraient de maladies neurodégénératives, Alzheimer ou Parkinson, des essais qui étaient financés par les dons des malades. Ces essais ont duré pendant un an et demi. La 15e journée de Ligue 1 de foot s'achève sur la victoire de Lorient, 1-0 sur Lyon. Mais l'inquiétude est du côté de l'OGC Nice. Le club en conflit ouvert avec ses supporters s'incline à domicile 1-0 face à Angers.
France Info.
Comment rendre la France plus souveraine sur ce que l'on mange? C'est la question au cœur des conférences pour la souveraineté alimentaire qui s'ouvre aujourd'hui à Rungis, connue pour son marché international. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, compte faire un point sur les filières agricoles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas, celles qui nous permettent de moins dépendre de l'étranger. Ce sont celles qui fonctionnent. Prenons un exemple, la volaille. Si un poulet sur deux est importé, du côté du lapin, là, on est sur un bon élève, car la filière produit assez pour répondre à la demande des Français. Édouard Marguier, vous vous êtes rendu dans un élevage de la chapelle Saint-Laurent dans les Deux-Sèvres.
En entrant dans le bâtiment, avant même de voir les lapins, on est frappé par un son qui nous est familier.
France Info.
Bah, je mets la radio pour faire un bruit de fond pour les animaux.
L'éleveur Philippe Fradin a trouvé ce moyen pour limiter le stress de ces 7000 lapins.
Comme ils sont en parc, ils retrouvent un comportement naturel. Donc il suffit qu'il y en ait un qui donne l'alerte, ils courent tous dans tous les sens, quoi. Comme s'ils allaient se cacher dans leur terrier.
Et c'est vrai que lorsqu'on s'approche des animaux, ils font se réfugier vers le fond des enclos. Le lapin est une espèce très sensible aux maladies. C'est pour cette raison qu'en France, l'élevage est hors sol le plus souvent, à l'intérieur d'un bâtiment. Mais plutôt que les traditionnels clapiers, encore très répandus, l'interprofession développe ses parcs.
Et donc, c'est des enclos de 350 lapins. Ils peuvent monter sur les mezzanines, sauter, courir. Ils sont libres totalement de leur mouvement. C'est la profession qui a devancé les normes, qui a fait ça avec une association environnementale. On a défini ce modèle-là, quoi, okay. En essayant de prendre au mieux le bien-être animal.
Les professionnels misent sur ces nouvelles pratiques pour rassurer les consommateurs de plus en plus exigeants sur les techniques d'élevage. Le but étant de stimuler cette petite filière, l'une des rares autosuffisantes en France. Philippe Fradin et ses 600 collègues éleveurs ont produit 24 000 tonnes de viande de lapin l'an dernier.
En France, oui, on arrive à produire ce que nous consommons. Mais on a quand même de très très fortes inquiétudes sur les volumes parce que je vous dis, plus de 50% des éleveurs ont plus de 55 ans. Ce qui veut dire que si on n'arrive pas à trouver des jeunes, dans 6-7 ans, la filière sera encore plus petite.
Et peut-être qu'à terme, il faudra qu'on importe de la viande de lapin ?
Oui, peut-être.
Pour lui, il y a de l'avenir car le lapin est une viande blanche, comme la volaille de plus en plus demandée. Les transformateurs l'ont bien compris en proposant d'autres façons de manger du lapin.
Des filets, des rôtis, on peut le cuisiner facilement à la poêle ou juste au four. Ça redonne un dynamisme à la consommation. Les gens n'ont plus le temps, donc faire un lapin à la cocotte... On ne le fait plus, quoi, parfois.
La France est aujourd'hui le troisième pays producteur de viande de lapin en Europe, derrière l'Espagne et l'Italie.
Merci Édouard Marguier pour ce reportage dans les Deux-Sèvres et on salue tous les lapins qui nous écoutent en ce moment. 5h22, c'est l'heure du monde d'Élodie. Avec une icône de la musique.
Bonjour Johan Baez.
Bonjour.
Quand on vous voit, il nous est impossible d'accepter que vous ayez 84 printemps, tant votre regard et votre sourire n'ont jamais sombré. Mais aucune violence ou injustice n'a eu raison de vous et de votre engagement. Vous avez, malgré l'adversité, toujours continué de rêver. Vous avez dit d'ailleurs « tu peux tuer le rêveur, mais tu ne peux pas tuer le rêve ». Vous publiez un recueil de poésie. « Quand tu verras ma mère, invite-la à danser aux éditions Point dans la collection Poésie ». Vous démarrez cet ouvrage avec un prologue intitulé « La poésie et moi ». Vous nous parlez de formules indisciplinées, de pensées vagabondes. Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de vivre cette vie de vagabonde?
Well, this book was written a long time ago.
C'est un livre que j'ai écrit il y a longtemps. Different reasons for different times. Donc il y a plusieurs raisons qui sont liées aux époques de ma vie, aux étapes de ma vie. Et là, c'était une période où je découvrais mon enfance en profondeur. C'est ça qui est sorti, qui est ressorti de là. C'est quelque chose qui m'a permis d'en arriver à la période où je suis aujourd'hui, où les poèmes que j'écris maintenant sont beaucoup plus politiques. Mais à l'époque, c'était très personnel. Et ça me plaît. J'aime le résultat.
Votre mère est au centre de votre attention, semble-t-il, depuis votre plus tendre enfance. Elle est votre exemple, votre base.
Oui, ma mère, c'était avant la Révolution des femmes. Elle était déjà une femme puissante. Et pendant des années, j'ai compris que j'avais hérité de cette force. Et je ne me battais pas pour les droits des femmes. J'essayais simplement d'être un exemple, d'être forte et de partager cette force avec les autres femmes.
Donald Trump, vous l'affrontez en poème dans ce recueil. Vous parlez de ce ver en fait qui a une partie de son cerveau qui a été absorbée par justement qui n'a pas d'empathie de fait. La démocratie, elle est vraiment en danger là pour vous, Johan Baez?
Democracy may be finished, honestly.
Honnêtement, La démocratie, c'est peut-être terminé. C'est peut-être la fin de la démocratie parce qu'ils sont tellement malins et la propagande est tellement puissante. Et j'ai dit ça toute ma vie. Et j'ai entendu des gens dire, je me souviens, pourquoi est-ce que personne n'a arrêté Hitler ? Eh bien, voilà pourquoi. Parce qu'il y avait des gens qui le vénéraient, il y avait des gens qui le suivaient, les autres n'étaient pas assez puissants pour résister et la majorité des personnes ne faisaient simplement pas attention. Et puis ceux qui comprenaient réellement ce qui se passait, ça devenait de plus en plus dangereux de dire quelque chose, de faire quelque chose. C'est exactement ce qui se passe aux États-Unis.
Votre maître à penser, entre guillemets, parce que finalement, on ne vous a jamais réellement indiqué quoi penser, John Baez, c'est votre force d'ailleurs, c'est Martin Luther King. Vous l'avez accompagné de nombreuses fois, vous l'avez beaucoup observé. Il représentait ce qui, pour vous, nécessitait un engagement.
Oui, ma première rencontre avec le Dr King, c'était lors d'un rassemblement de lycéens. Ça avait lieu tous les ans. C'était pour parler de politique de non-violence, de changement politique, de transition politique. Et j'ai été profondément bouleversée par ce que faisait cet homme. Et j'ai compris que ce qui se passait, les boycotts des bus dans le Mississippi, c'était vraiment en train de se faire. Je ne suis pas sûre de l'avoir recroisé finalement tant que ça. Autour de ce moment-là, il était encore très jeune, il avait 29 ans, mais c'est vraiment le souvenir que je garde. Ça a été la première personne que j'ai rencontrée qui faisait à grande échelle ce que je pensais vouloir faire.
A changé finalement dans tout ça, dans tout ce parcours, c'est cette notion de plaisir. Vous acceptez enfin de prendre du plaisir.
Oui. Je me souviens qu'il y a des années, je ne comprenais pas cette idée de m'amuser. Et j'avais une copine qui ne parlait que de ça, s'amuser. Et elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu t'amuses pas ? Et je ne savais même pas de quoi elle parlait. Et puis j'ai commencé à travailler dessus, à m'améliorer, à rire davantage et à m'amuser. Je me souviens qu'une fois, on parlait au téléphone et elle avait tellement l'habitude que je ne m'amuse pas qu'elle a commencé à me faire des propositions. Et je lui ai dit, attends, mais tu ne m'écoutes pas. Je m'amuse, en fait. Oui, je ne suis peut-être pas amusée au début, mais je suis en train de le faire. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai rejoint un cirque pour danser, pour faire la folle, pour vraiment m'amuser.
Quand on regarde les photos, il y a quelque chose qui saute aux yeux. C'est qu'à aucun moment, votre sourire ne s'est fané. Comment vous avez fait, malgré les abus sexuels, les difficultés, les guerres ? C'est quoi le secret ?
I don't know. Je ne sais pas. Je crois que c'est juste là, tout le temps. Mon état naturel, l'état naturel de mon visage, comme ma mère, c'est toujours une forme de sourire, au moins une esquisse de sourire.
Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Le livre s'appelle « Quand tu verras ma mère, invite-la à danser ». C'est magnifique. C'est réellement une belle façon de vous découvrir, mais je crois que vous vous êtes vous-même découverte grâce à cet ouvrage. Merci beaucoup.
If the interview is good enough, then I learn something about myself. Quand l'interview est assez bonne, j'apprends quelque chose sur moi.
Yes to you, chanson inoubliable de Joan Baez. Invité du monde d'Élodie, vous retrouvez cet entretien exceptionnel en longueur sur franceinfo.fr.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Christine Peña, le ciel reste menaçant au nord.
Mais oui, menaçant avec une grande douceur quand même, pas mal de nuages, des pluies encore, plus régulières d'ailleurs entre la Bretagne et la Normandie. Alors il fait particulièrement doux sous les nuages et la pluie, des températures élevées, on aura certainement des records de douceur, ça devrait tomber. Il fait entre 14 et et 15 degrés en ce moment, de 13 à 14 en Île-de-France jusqu'au nord, jusqu'à Calais. Il fait nettement plus froid dans le sud et notamment le sud-ouest où on a 4-5 degrés là dans les Landes, le par exemple. Le monde à l'envers. Côté ciel, vous avez de belles conditions dans le sud, hein, sur toute la moitié sud, avec des brouillards mais qui vont se lever. Le soleil sera vraiment très présent, une France coupée en deux. Ce soleil qui grignotera quand même un peu de terrain du côté des Pays de la Loire jusqu'à la Bourgogne, le centre Val-de-Loire. Mais plus au nord, sur Paris, ça devrait rester bouché, malheureusement, avec très peu de pluie, finalement, sur Paris. Peut-être pas du tout, d'ailleurs. Et ces pluies qui devraient tarder quand même à s'évacuer vers la Manche dans l'après-midi. La douceur va rester en place aujourd'hui et demain. À partir de mercredi, ça commencera tout doucement à baisser. Et c'est un temps mitigé qui va s'installer pour la semaine avec quelques moments de répit, du soleil même au nord, hein, mais des pluies, et notamment en Bretagne, avec du vent qui va s'accélérer, qui va vraiment s'intensifier pour demain, et de nouvelles pluies qui devraient de nouveau être présentes sur l'ouest du pays.
Merci beaucoup Christine Peña. À venir d'ici 6h sur France Info, l'anniversaire de la chute du régime de Bachar al-Assad. C'était il y a un an en Syrie. Certains exilés ont pu revenir dans les régions qu'ils avaient dû fuir. Reportage à venir, ce sera dans 20 minutes. À quoi va ressembler le nouveau service militaire ? Pour France Info, l'armée a ouvert les portes d'un site qui recevra une centaine de volontaires dès septembre prochain. Reportage cette fois dans 10 minutes. Merci d'écouter France Info. Pour l'heure, il est 5h30 et c'est l'heure d'un nouveau journal.
France Info.
Des tirs en pleine zone commerciale et une enquête ouverte par le parquet de Châteauroux dans l'Indre. Samedi, un chasseur a tiré sur un sanglier qui se trouvait sur un axe très fréquenté de l'agglomération. Plusieurs voitures étaient à proximité. La scène a été filmée par la passagère d'une voiture. Vous avez pu la contacter, Jérôme Collin.
Le coup de feu est parti soudainement. Lucie filme la scène avec son téléphone. Le chasseur est juste devant la voiture dans laquelle elle se trouve.
Du coin de l'œil, en fait, je vois le chasseur qui pointe son arme et il tire. J'ai vraiment eu très très peur. Je trouve ça abominable d'avoir été témoin de ça.
L'enquête devra déterminer si le tir était justifié pour des raisons de sécurité. Pour Lucie, c'est clair, le sanglier n'était absolument pas menaçant.
Il n'y avait rien de mal, il n'était pas agressif. Il essayait de passer de l'autre côté, mais je me dis, oh, bah, c'est un sanglier, le monsieur il est en train de le contenir.
Le procureur de la République de Châteauroux qualifie les faits de particulièrement graves et choquants. Un avis partagé par Laurent Gandillot, président de la Fédération de chasse de l'Indre.
C'est pour nous un événement qui est considérable parce que autant la Fédération défend tous les types de chasse, autant la Fédération ne défend pas tous les types de chasseurs.
Les chasseurs n'avaient visiblement pas de tenue pour les identifier comme tels et l'angle de tir n'était peut-être pas dans les règles.
La vidéo laisse supposer qu'il y a peut-être eu quelques libertés, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les consignes de sécurité. Les chasseurs qui manqueraient au respect des règles de sécurité les plus élémentaires portent un tort considérable à l'ensemble de ceux qui se comportent bien.
La Fédération de chasse de l'Indre se dit prête à se constituer partie civile en cas de besoin. Elle rappelle néanmoins que ces événements restent très rares.
Jérôme Collin d'ici Berry pour France Info, l'auteur du tir. Un homme de 76 ans a été placé en garde à vue. L'automobiliste qui a blessé 19 personnes en Guadeloupe hier est placé en détention provisoire. Il a foncé sur une foule dans la commune de Sainte-Anne réunie à l'occasion des fêtes de Noël. L'homme de 45 ans a été testé positif à l'alcool et au cannabis. La France appelle ses ressortissants au Bénin à la plus grande prudence alors que le pays d'Afrique de l'Ouest a été le théâtre hier d'une tentative de coup d'État. Des militaires ont fait irruption à la télévision annonçant démettre de ses fonctions le président Talon. Lui assure que la situation est désormais entièrement sous contrôle. Le Nigeria voisin confirme avoir mené des frappes sur la capitale Cotonou et déployé des soldats à la demande du Bénin pour contrer ce putsch. L'intersyndicale du Louvre se réunit ce matin. Il sera question d'un nouvel incident dans le musée après le cambriolage d'octobre. Cette fois, on apprend que des ouvrages du département d'égyptologie ont été endommagés par une infiltration d'eau. C'est sans doute l'un des dossiers brûlants qui va arriver dans un futur proche dans l'arène politique. Une allocation sociale unifiée, c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron pour regrouper plusieurs prestations en une seule. Un projet de loi doit être présenté prochainement en Conseil des ministres et les contours de cette mesure restent tout de même très flous. Les associations de lutte contre la pauvreté s'inquiètent, Laurine Benjebria. Elles doivent être reçues aujourd'hui par le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou. Alors Laurine, que sait-on à ce stade de cette mesure ?
L'idée est de regrouper le RSA, la prime d'activité et les aides au logement, c'est-à-dire d'harmoniser les conditions de ressources qu'il faut remplir pour toucher ces trois aides qui, aujourd'hui, ont des méthodes de calcul différentes. Une manière de simplifier les démarches, de rendre plus lisibles ces aides sociales et donc de lutter contre le non-recours, sachant qu'aujourd'hui, un tiers des personnes éligibles au RSA ne le demandent même pas. L'autre objectif visé par le gouvernement, c'est de privilégier l'incitation au travail. Un foyer qui travaille doit gagner plus qu'un foyer vivant des aides sociales, insiste le ministre du Travail. Une vision idéologique selon les associations de lutte contre la pauvreté qui estiment que le travail paye déjà plus que les prestations. Elles se disent inquiètes du manque d'informations sur ce projet et craignent que les allocations diminuent pour certains bénéficiaires.
Merci Laurine Benjebria. Et puis la France va rendre à la Mongolie un fossile rarissime qui a été saisi il y a 10 ans par nos douanes. Un fossile de dinosaure, un squelette vieux de 70 millions d'années d'un Tarbosaurus entier. C'était le cousin asiatique du T-Rex. Le squelette avait été pillé dans le désert de Gobi. Il est 5h34.
France Info, 5h-6h, William Gay-Costa.
Le chaud et le froid entre la France et la Chine. Emmanuel Macron menace désormais Pékin de nouveaux droits de douane européens dans les tout prochains mois. Le président de la République est pourtant de retour d'un voyage de 3 jours en Chine et il juge que la relation entre Pékin et l'Union est trop déséquilibrée côté commerce. Mais ces dernières heures, il y a eu un geste d'ouverture de la part de la Chine qui ravit les producteurs de vin en Bourgogne. Pékin va reconnaître l'appellation d'origine protégée de 70 vins qui viennent de la région. Alors, quelles conséquences pour la filière ? Jean-Marie Cardebat est professeur à l'Université de Bordeaux. C'est un spécialiste de l'économie du vin.
On parle de 70 appellations, on prend quasiment toute la Bourgogne. Donc, je crois que c'est une reconnaissance de la région bourguignonne de façon générale après cette première reconnaissance qu'il y avait eu pour Mâcon et Gevrey-Chambertin il y a un an. Et donc, ça s'inscrit dans une démarche continue, finalement, de reconnaissance des AOC françaises viticoles par la Chine qui avait débuté quand même en 2009 déjà avec Cognac et Champagne et puis 2016 avec les appellations bordelaises. Mmh. Donc, ça intervient presque un petit peu tardivement, on pourrait dire, finalement, pour la Bourgogne, mais c'est une excellente nouvelle, en tout cas.
Et qu'est-ce que ça change pour les viticulteurs concernés, ces bourguignons, cette décision de la Chine ?
Ça change à la fois pour les producteurs et pour les consommateurs chinois, c'est-à-dire que ça donne des armes juridiques pour se prémunir contre la contrefaçon. Donc, c'est une logique de propriété intellectuelle. Derrière, on a une police spéciale qui traque, justement, les contrefaçons, qui a été formée sur différentes appellations viticoles, on l'a dit pour le Bordelais, par exemple, maintenant pour la Bourgogne, pour traquer tous ces faux qui peuvent poser d'ailleurs parfois des problèmes sanitaires pour le consommateur chinois et freinent évidemment le commerce puisque on peut trouver des faux bien moins chers sur le marché chinois que les véritables vins que l'on pourrait acheter aux exportateurs bourguignons. Donc plus d'exportations vraisemblablement dans un contexte
oui,
où la Bourgogne est déjà...
Oui, ça c'est quand même important.
Et bien sûr, donc il y aura forcément plus d'exportations et je le disais, dans un contexte où la Bourgogne est de plus en plus appréciée en Chine et moins de faux pour le consommateur chinois qui est quand même le premier lésé dans cette histoire aussi.
Oui, le comité Bourgogne, ex-bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, signale que les exportations de vins de Bourgogne vers la Chine ont doublé de volume ces 10 dernières années et avec cette décision chinoise, ça va sans doute continuer.
Exactement. Ce sont des vins qui sont aujourd'hui dans la tendance du marché, les vins de Bourgogne. Vous savez, en Chine, on a quand même un effondrement du marché. Ça aussi, il faut bien en prendre conscience. Donc, avoir cette performance à l'exportation pour la Bourgogne, c'est d'autant plus remarquable qu'on est dans un contexte où le marché chinois s'est contracté de 75% depuis 8 ans.
Et pour quelle raison ?
C'est à la fois pour des raisons économiques, de contexte économique dégradé en Chine, où la consommation a du mal à redémarrer depuis l'arrivée de Trump en 2016, qui avait fait déjà du mal avec ses premières taxes vis-à-vis de la Chine. Donc on a un problème conjoncturel, on a aussi un problème peut-être vis-à-vis de l'Occident, et Xi Jinping avait dit que le vin était quand même un symbole du capitalisme. Donc forcément, ça ne fait pas une bonne publicité pour le vin sur le marché chinois, bien entendu.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de retour de bâton pour les viticulteurs bourguignons et plus généralement français avec cette menace que brandit Emmanuel Macron de nouveaux droits de douane européens contre la Chine.
On sait déjà, on l'a vu pour les spiritueux, typiquement le cognac aujourd'hui est taxé à plus de 30% sur le marché chinois dans le cadre d'une enquête anti-dumping lancée par la Chine, qui est une pure mesure de rétorsion par rapport aux taxations des véhicules chinois sur le marché européen. Donc, effectivement, on peut se dire que cette victoire bourguignonne est peut-être l'arbre qui masque la forêt. Parce que
et elle sera peut-être de courte durée.
Elle sera peut-être de très courte durée, d'une part, et d'autre part, la riposte pourrait être d'une ampleur qui ira bien au-delà de la reconnaissance des AOC. C'est-à-dire, ça serait, après les spiritueux, l'ensemble de la filière viticole qui pourrait être taxée à hauteur d'une trentaine de pourcents, comme le cognac, sur le marché chinois. Donc là, ça serait véritablement catastrophique.
Jean-Marie Cardebat, professeur à l'Université de Bordeaux, spécialiste de l'économie du vin. Il répondait aux questions France Info de Marc Potvin. Emmanuel Macron était donc en Chine ces derniers jours. Il sera à Londres aujourd'hui, aux côtés des Britanniques, des Allemands et surtout des Ukrainiens. Démonstration d'unité aux côtés de Volodymyr Zelensky, alors que le soutien américain à Kiev est de plus en plus menacé. Sur le front, malgré tout, les Ukrainiens tentent toujours de résister aux assauts russes et face au manque de soldats, les drones deviennent roi sur le champ de bataille, dans le ciel évidemment, et sur terre aussi. Des robots équipent désormais une brigade que vous avez rencontrée, Boris Loumagne, dans la région de Zaporijjia.
Les Ukrainiens appellent ça un drone terrestre. Mais pour le visualiser, il faut plutôt s'imaginer une sorte de gros cube métallique monté sur quatre roues motrices et équipé d'une caméra et de puissantes armes de guerre.
Apprendre à piloter ce robot, c'est pas compliqué.
Max est instructeur, c'est lui qui forme les futurs pilotes de robots.
Là, vous avez la télécommande avec écran intégré. Là, vous avez le joystick. Avant, arrière, gauche, droite. Et ça, c'est pour tirer. Ça, c'est le lance-roquette. Et ça, c'est la mitrailleuse.
Ici en Ukraine, avec une armée qui peine à recruter de nouveaux hommes, ces robots sont une aubaine pour Sergui, qui est officier dans cette brigade.
Les robots permettent d'économiser des hommes sur le champ de bataille. Un seul de ces robots peut remplacer la force de frappe d'une petite unité. C'est la guerre du futur. Elle est là, sous nos yeux.
Et évidemment, les Russes ne sont pas en reste. Eux aussi développent des robots de combat.
Comme dans tous les domaines, on se tire la bourre avec eux. C'est un combat de tous les instants.
Yegor, lui, est ingénieur dans l'entreprise ukrainienne qui produit ces robots. Le jeune homme de 23 ans doit sans cesse améliorer cette technologie, notamment grâce à l'intelligence artificielle.
Pour le moment, le robot se sert de l'IA pour repérer une cible en détectant son mouvement. Mais bientôt, avec quelques modifications, l'IA pourra bientôt viser elle-même et décider de tirer sur la cible.
En quelques mois, l'entreprise de Yegor a vendu plus d'un millier de robots de combat à l'armée ukrainienne.
Un document signé Boris Loumagne, Yachar Fassilov et Jérémy Tuil dans la région de Zaporijjia en Ukraine. Dans l'armée française, il y aura du changement. L'an prochain, on ne parle pas d'armes, mais du retour du service militaire, version volontaire, confirmée par Emmanuel Macron. Un service qui durera 10 mois pour des jeunes entre 18 et 25 ans qui seront sélectionnés. Ils n'iront pas à l'étranger, mais dans des bases de l'Hexagone. Parmi elles, la base aérienne d'Orange dans le Vaucluse. Mathilde Vinceneux, l'armée de l'air a accepté de vous ouvrir ses portes pour France Info pour une immersion dans ce qui sera le quotidien des futurs volontaires.
Sur la base aérienne d'Orange, les 100 premiers volontaires du service national arriveront en septembre 2026, logés dans des dortoirs, à 5 par chambre, explique l'adjudant Aldo.
Bien sûr, les chambres ne seront pas mixtes, vous vous en doutez bien. Ce sera des chambres personnel masculin et personnel féminin. Et les lits au carré, bien sûr, comme vous le voyez. Pas de poster, pas de choses personnelles, des douches et WC communs.
Réveil à 6h, ils seront tout de suite mis dans le bain.
Disons que le coiffeur, passage chez le coiffeur est prévu le premier jour.
Le lieutenant-colonel Yann.
Autre anecdote, on leur retire leur téléphone portable, mais c'est pour être vraiment focus sur cette formation qui sera tout de même un minimum exigeante.
Le premier mois, les jeunes volontaires apprendront les bases du métier de militaire.
Porter l'uniforme, marcher au pas. Le maniement des armes, le fusil d'assaut, les techniques de corps à corps, de combat rapproché, les fondamentaux.
la même formation que pour les jeunes qui ont choisi de s'engager avec combat.
Je me défends contre le bâton.
Oui, sergent.
Question ?
Non, sergent.
Entraînement au tir.
Un genou au sol. Feu.
Feu. Une fois ce premier mois terminé, les jeunes du service national seront affectés dans l'une des 27 bases aériennes de métropole ou d'outre-mer. Pour exercer un métier, la générale Valérie Gaudin s'occupe du recrutement.
La base aérienne, c'est une petite base vie. On y mange, on y dort, on y travaille surtout. Donc ils peuvent être affectés dans n'importe quel emploi suivant ce qu'ils ont envie de faire. On va les projeter sur plus de 30 métiers différents, effectivement.
Payés 800 euros par mois, les jeunes pourront rejoindre les patrouilles de l'opération Sentinelle, surveiller les aéroports, travailler dans les cantines, les infirmeries et être au plus près des hélicoptères et des avions de chasse avec les mécanos ou les armuriers.
Ils pourront aider l'armurier. L'armurier qui s'occupe en fait de monter les armes, la bombe, armer les canons ou encore changer le siège éjectable.
Ils pourront aussi travailler avec les pilotes d'avions de chasse, au poste de marqueur par exemple, explique le capitaine Valentin, pilote de Rafale.
C'est un emploi qui est totalement ouvert au service national. Il est présent en fait pour aider et faciliter toute la planification et la conduite des vols. Présent avec les pilotes.
L'armée de l'air a déjà reçu 200 candidatures de jeunes pour le service national. Elle espère en former 600 la première année sur la base aérienne d'Orange et sur celle d'Évreux.
France Info, reportage signé Mathilde Vinceneux. Nicolas Sarkozy fait tomber un tabou. L'ancien président assure dans son livre qui sera publié cette semaine qu'il n'appellera pas au barrage face au RN. Le détail et le décryptage du service politique de France Info dans un instant.
France Info. 5h-6h.
6h moins le quart, l'heure de l'info en une minute avec Diane Ferchit et à la une, l'heure de la reprise pour l'immobilier ancien.
Reprise timide selon le bilan 2025 des notaires publié aujourd'hui et que France Info a pu consulter. 11% de ventes en plus sur un an, c'est en Gironde que le marché repart le mieux. Des ouvrages du département antiquités égyptiennes du Louvre endommagés par une fuite d'eau, elle s'est produite le mois dernier. 300 à 400 ouvrages concernés, des ouvrages importants mais pas précieux selon la direction du musée. Des centaines de familles de Pauillac en Gironde dans l'angoisse après l'arrestation d'un photographe de la commune suspecté d'avoir diffusé des images pédopornographiques trafiquées par l'intelligence artificielle. L'homme était notamment chargé des photos de classe des écoles de Pauillac. Il est mis en examen et placé en détention provisoire. Nouvelle réunion à Londres pour la paix en Ukraine. Emmanuel Macron ainsi que les dirigeants britanniques et allemands autour de Volodymyr Zelensky pour évoquer les négociations en cours dans le cadre de la médiation américaine. Le plan de paix proposé par Washington est en train d'être discuté. Plan de paix que Donald Trump accuse le président ukrainien de n'avoir pas lu.
France Info.
Il va raconter ses 20 jours de détention en 200 pages. Nicolas Sarkozy publie mercredi Journal d'un prisonnier aux éditions Fayard. L'ex-président y raconte son expérience de détenu après sa condamnation dans le dossier libyen. Mais il aborde d'autres sujets avec beaucoup de réactions depuis. Bonjour Jean-Rémy Baudot.
Bonjour William, bonjour à tous.
Chef du service politique de France Info, vous avez lu ce livre ce week-end, Jean-Rémy, et il y parle donc beaucoup, Nicolas Sarkozy, de l'avenir de son ancienne famille politique.
Oui, il y a deux passages dans le livre où Nicolas Sarkozy partage le fond de sa pensée sur la droite. Page 72, quand il raconte ses échanges avec Marine Le Pen, l'ancien président salue le soutien que la patronne des députés RN a pu lui apporter après sa condamnation, et il retranscrit leur échange téléphonique. Marine Le Pen, votre voix porte sur l'électorat de la droite populaire, vous associerez-vous à un quelconque front républicain ? Réponse de Nicolas Sarkozy, dit-il sans ambiguïté, non, et de surcroît, je l'assumerai en prenant le moment venu une position publique sur le sujet, fin de citation. Voilà qui est donc fait, sa position est désormais publique, Nicolas Sarkozy refusera à l'avenir l'idée même de front républicain, de barrage contre l'extrême droite, terminé les heures où il combattait le Front National. Une centaine de pages plus loin, il demande même à sortir de ce qu'il appelle un cordon sanitaire factice autour du RN. Un parti qui, selon lui, je cite, « ne constitue pas un danger pour la République ».
Mais alors Jean-Rémy, est-ce qu'il faut comprendre que Nicolas Sarkozy veut un rapprochement entre les Républicains et le RN ?
Alors en réalité, Nicolas Sarkozy parle stratégie politique. Page 192, il écrit « Beaucoup des électeurs de Marine Le Pen et Jordan Bardella étaient à mes côtés quand j'étais dans la politique active ». Fin de citation. C'est vrai que Nicolas Sarkozy a remporté l'Élysée en 2007 en siphonnant le vote Le Pen. Sauf qu'à l'époque, il n'avait pas de mots assez durs contre l'extrême droite. Aujourd'hui, dans son livre, il appelle à ne pas tourner le dos au RN. Insulter les dirigeants du Rassemblement national, c'est insulter leurs électeurs, donc les nôtres, au moins potentiellement. Et il rajoute « Mon ancienne formation politique n'est pas aujourd'hui en position de force. Elle ne peut plus, à elle seule, espérer incarner l'avenir. » Par ses quelques lignes, par ses écrits, par ses déclarations, par sa bienveillance envers Marine Le Pen, par ses rendez-vous privés avec Jordan Bardella, Nicolas Sarkozy banalise le rapprochement entre la droite et l'extrême droite et ouvre clairement la voie à ce qui est appelé l'union des droites.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau, chef du service politique de France Info. Il est 5h49 et c'est l'heure du choix de France Info. Et il nous emmène ce matin en Syrie où l'on célèbre aujourd'hui le premier anniversaire de la chute du régime de Bachar al-Assad. C'était le 8 décembre 2024. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour France Info et vous êtes allé à la rencontre du million de Syriens qui ont pu revenir dans leur pays après avoir fui à l'étranger. Ils ont pu revenir à la faveur de la chute de ce régime de Bachar al-Assad.
Ici, c'est le salon qui sert de chambre et de tout. Ilham est revenu il y a 2 mois, après 13 années d'exil en Libye.
Quand je suis rentrée, je me suis agenouillée et j'ai remercié Dieu d'être sur la terre de mon pays. C'était indescriptible.
Elle a eu du mal à reconnaître son quartier de la Ghouta orientale, tant les bombardements du régime l'ont défigurée et n'avait pas imaginé que les défis seraient si lourds.
Tout est difficile, tout est très cher. Il faut reconstruire la Syrie, donner du travail aux gens, augmenter les salaires, prendre soin des femmes. Nous espérons que l'avenir sera lumineux. Nous faisons confiance à notre Dieu et à notre président Ahmed al-Sharaa.
Mais il est trop tôt pour faire rentrer ses enfants de Libye.
Non, pour l'instant, je ne les encourage pas à revenir. Il vaut mieux qu'ils restent là-bas. Au moins, ils ont un travail qui leur permet de manger. Mais ici, ils vont avoir du mal à trouver un travail, un endroit où vivre. Les loyers sont tellement chers. En plus, ils ont chacun une famille.
Bada, lui, est célibataire. Il n'a pas tardé à quitter l'Irak pour rejoindre Hama dans le centre de la Syrie. Il vient d'inaugurer son café.
Maintenant, la Syrie est un pays sûr. C'est un bon endroit pour démarrer mon business. Ça ne prendra pas longtemps, parce qu'on a les bonnes personnes. Les Syriens aiment travailler, aiment construire, ils aiment leur pays. C'est le bon moment pour revenir en Syrie. Mes amis de Damas, de Dera, d'Alep, tous reviennent.
Alors Marie-Pierre, on entend l'espoir de ces jeunes, mais beaucoup reviennent aussi parce qu'ils n'ont pas réussi à se faire une place dans leur pays d'accueil.
Oui, c'est le cas des centaines de milliers de Syriens qui ont quitté la Turquie en butte au racisme et frappés par la crise économique. Mais d'autres parcours sont encore plus tragiques, comme celui de cette famille que nous avons rencontrée dans les quartiers est d'Alep, chassée par les bombes d'Assad jusqu'au Liban, puis par les bombardements israéliens qui les ont renvoyés dans leur pays. Mais Daria, la mère, nous accueille avec un large sourire.
Je suis très optimiste parce que revenir en Syrie, c'était un rêve. Nous n'en sommes qu'au début. Vous voyez les destructions, mais nous avons de l'espoir. Nos enfants vont grandir dans leur pays. Ce pays a besoin d'énergie et de nouveaux bras pour le redresser. Mais les bras de son peuple, pas ceux d'étrangers.
L'appartement est encore bien vide et glacial, mais tous ont le cœur léger. Le père vient de trouver un poste d'instituteur.
Le bâtiment de l'école avait été détruit, mais une ONG l'a réparé. Maintenant, il y a des salles de classe où on vient de recevoir des pupitres pour les élèves. Depuis la rentrée, ils devaient s'asseoir par terre. Et nous, les professeurs, nous étions debout du matin au soir. Nous n'avions pas de chaise.
Quand elle parle du retour à Alep, Fatma, 14 ans, a les yeux qui brillent.
J'ai eu un choc. Vous savez, je ne connaissais rien d'ici. Mes parents nous parlaient beaucoup de la guerre. Je pensais que ce serait totalement détruit. C'est beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Je suis si heureuse. C'est sûr, mon pays va devenir tellement beau.
Mais sa petite sœur, Zara, née au Liban, en doute. Ses amis, dit-elle, et les magasins lui manquent.
Je pensais qu'on ne resterait pas longtemps ici et qu'on repartirait au Liban, parce que c'est là-bas que l'on vivait. Et je ne voulais pas venir ici. Je suis sûre que j'y retournerai.
Sa mère la coupe. Tu y reviendras, c'est sûr, mais pas comme une réfugiée. Il faudra certes du temps pour reconstruire une nouvelle vie, mais tous le disent, rien ne peut être pire que Bachar. Et ils n'en doutent pas, plus personne ne les forcera à prendre le chemin de l'exil.
Le choix de France Info, signé Marie-Pierre Véraud et Martin Troadec. En Syrie, vous le retrouvez sur franceinfo.fr. Une marraine qui fait un chèque de près de 100 000 euros. Très beau cadeau dans la playlist de Diane Ferchi qui arrive juste après l'écho en trois titres avec Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
On commence, Emmanuel, avec le gouvernement qui lance aujourd'hui les conférences de la souveraineté alimentaire.
Oui, l'objectif est de définir une stratégie agricole nationale pour les 10 prochaines années. Prévue par la dernière loi d'orientation agricole, les rendez-vous se dérouleront sur plusieurs mois, par filière de production et au niveau régional, pour des conclusions au mois de juin. Ces conférences sont abordées plutôt avec méfiance et scepticisme par les agriculteurs, échaudés par différentes crises. De l'élevage à la viticulture, en passant par les céréales, les difficultés sont telles que la balance agricole française pourrait être déficitaire cette année pour la première fois depuis 50 ans. Aujourd'hui, la France importe la moitié des fruits, légumes et du poulet qu'elle consomme, 60% de la viande ovine, 25% pour ce qui est du bœuf.
La Chine se penche sur le vin de Bourgogne.
Oui, Pékin va reconnaître 70 nouvelles appellations d'origine protégée, les fameuses AOP de cette région viticole. Annonce de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, au quotidien économique Les Échos, au lendemain de la visite en Chine du président de la République, Emmanuel Macron. Ces 70 nouvelles AOP bourguignonnes viennent rejoindre 10 autres déjà enregistrées depuis l'année dernière. Elles bénéficieront donc d'une meilleure protection juridique. Ce processus permet également de lutter contre les contrefaçons.
La Chine qui voit chuter, Emmanuel, ses exportations vers les États-Unis.
Oui, c'est l'effet direct des taxes douanières mises en place par l'administration Trump. Les ventes chinoises vers les États-Unis ont chuté de 29% en novembre sur un an, mais hors Amérique, les exportations de la Chine à l'étranger donc ont augmenté de 6%.
Emmanuel, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info. Ce sera le Brief Écho.
L'Union européenne relance la guerre contre les géants américains du numérique. Bruxelles inflige une amende de 120 millions d'euros au réseau social X, anciennement Twitter, détenu par Elon Musk. Alors du pain béni pour Donald Trump qui cherche tous les arguments pour critiquer et attaquer la politique industrielle européenne.
Merci beaucoup, à tout à l'heure Emmanuel Cuny. Il est 5h55 et c'est l'heure de votre playlist du jour. Diane Ferchit avec une marraine exceptionnelle.
Ce n'est pas moi qui le dis, mais toute l'équipe du Téléthon à propos de la chanteuse Santa, aussi investie ce week-end que la marraine fée de Cendrillon. C'est vrai qu'elle a réussi à faire briller les yeux des jeunes participants grâce à sa générosité et à la magie de sa voix.
Allez viens, je t'emmène loin, regardez le monde s'écrouler, il y aura du popcorn salé, il y aura un nouveau monde à nos pieds.
L'interprète de popcorn salé qui a versé très exactement 99 999 euros à la cagnotte.
Ah, c'est précis.
Oui, très précis. Cagnotte pour la recherche contre les maladies rares et génétiques. Et si c'est très précis, William, c'est que le 9, c'est son chiffre fétiche porteur, selon elle, d'espoir. Une si grosse somme versée par un parrain de l'événement, c'est du jamais vu. Santa, qui s'est aussi investi auprès des familles d'enfants malades et qui a vraiment donné de sa personne.
5, 4, 3, 2, 1... Go!
36, 37.
Voilà, ça c'est le cri poussé par Santa qui est descendue en tyrolienne de la Tour Eiffel.
Ah oui.
Elle s'était engagée à le faire ainsi les 20 millions d'euros de dons étaient dépassés avant 13h samedi. Et au total, ce sont plus de 83 millions qui ont été récoltés durant le Téléthon. Cagnotte qui va sûrement encore augmenter. Vous pouvez encore faire d'ailleurs des dons au 36-37 et sur internet, c'est jusqu'à vendredi. Voilà, Santa qui est actuellement en tournée. Prochaine date pour la chanteuse, ce sera le 17 décembre au Zénith de Paris.
Merci beaucoup Diane Ferchi, toujours un plaisir d'entendre Santa. Et on le rappelle encore une fois, si vous voulez faire un don, il n'est pas trop tard pour le Téléthon, 3637 ou téléthon.fr. Allez, on recommence la météo.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Christine Peña, on prend une règle, on trace un trait, pluie au nord, soleil dans le sud.
Ben voilà, on recommence aussi avec ce découpage classique, le soleil qui s'impose dans le sud. On a pas mal de grisailles quand même, hein, de brouillard, de brumes qui se sont installées, notamment vers le delta du Rhône, ou encore la côte d'Azur, le nord de la Corse, ou encore en vallée de la Garonne, mais ça va se lever, vous aurez un grand soleil sur la moitié sud, et toujours ces nuages qui vont rester présents. Alors malgré tout, le soleil grattera un peu de place là sur la Bourgogne, le centre-Val de Loire notamment, mais pas jusqu'à Paris. On devrait rester sous les nuages. Ces pluies qui sont un peu plus continues entre la Bretagne et la Normandie devraient s'évacuer peu à peu vers la Manche. Et puis les températures exceptionnelles, on en parle ce matin. On aura certainement des records. Alors, il faut se méfier parce qu'au lever du jour, on peut avoir une petite baisse des températures. Enfin, il fait entre 13-14 degrés là, sur la moitié nord, sous les nuages. C'est l'avantage. Alors que dans le sud-ouest, on a 4 degrés, par exemple, dans les Landes. Mais le ciel est dégagé. Les températures cet après-midi très homogène, de 15 à Lille, comme à Paris, comme à Lyon et Montélimar, jusqu'à une vingtaine de degrés près des Pyrénées.
Merci beaucoup. Ah oui, c'est le printemps au mois de décembre, on le rappelle, voilà. Hein, tout de même, c'est important, 8 décembre. Merci beaucoup Christine Peña. Allez, c'est notre Santa à nous, il arrive avec une hotte pleine d'infos. C'est Jérôme Chapy. Bonjour Jérôme.
Bonjour William, à tout à l'heure. On va vous retrouver dans une heure pour le journal de 7h. Mais je sais, William, que vous serez aussi à l'écoute dans 20 minutes pour ce reportage sur l'élevage des lapins,
ah oui,
qui font un excellent usage de leurs grandes oreilles.